Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Quand Vladimir Poutine répond à l'une de ses adversaires pour l'élection présidentielle du printemps prochain, en pleine conférence de presse ce matin, le président russe a été interpellé par la candidate libérale Ksenia Sobchak. Le reportage de Claude Bruyot à Moscou dans un instant. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, remet en cause les quotas obligatoires de migrants pour les pays de l'UE. La proposition fait polémique au sommet de Bruxelles. Nous verrons cela avec Franck Mathevon. En France, le gouvernement met 5 milliards d'euros sur la table pour revitaliser les centres-villes désertés au profit des zones commerciales en périphérie. Nous en parlerons avec notre invité Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Mais on va commencer ce journal avec les dernières informations sur ce terrible accident survenu aujourd'hui à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Une collision entre un car scolaire et un train à hauteur d'un passage à niveau. Le dernier bilan fait état de 4 morts et 20 blessés, dont 9 sont en situation d'urgence absolue. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place ce soir. Vladimir Poutine a tenu aujourd'hui à Moscou sa traditionnelle conférence de presse annuelle. Une grand-messe médiatique suivie par plus de 1600 journalistes. 3h40 de questions-réponses qui ont permis au président russe de jouer la carte d'une transparence toute relative. Cette année, le show Poutine intervient à 3 mois de l'élection présidentielle russe. Le maître du Kremlin, candidat à un 4e mandat, est crédité de 75% d'intention de vote dans un récent sondage. Il a été interpellé aujourd'hui par l'une de ses rivales potentielles, la journaliste libérale Ksenia Sobchak. Pour Poutine, connaît bien le père de la jeune femme, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
Ksenia Sobchak a sagement attendu son tour avant de poser sa question à Vladimir Poutine. Le président russe avait l'air plutôt amusé au début de se retrouver face à la fille d'Anatoly Sobchak, son ancien maître à penser. Celle qui a 36 ans est l'opposante principale du président russe, micro en main, se met alors à dénoncer l'opposition muselée en citant Alexei Navalny. Ma question, est-ce que le pouvoir a peur d'une concurrence honnête? Quittant son sourire de façade, Vladimir Poutine a vite fait de retrouver sa rhétorique, brandissant la menace du chaos si la Russie était livrée à ses opposants. Est-ce que vous voulez que l'on survive d'un Maïdan à l'autre, que nous ayons des tentatives de coup d'État? Nous avons déjà survécu à tout ça. Est-ce que vous voulez revenir à tout ça? Je suis sûr que la majorité absolue des Russes ne le veut pas. L'échange Poutine-Sobchak a duré quelques minutes seulement. Était-il convenu en amont pour lancer la campagne présidentielle? Chacun des deux acteurs, en tous les cas, aura tenu son rôle.
Claude Bruyot, merci. La Russie de Poutine qui reste dans le collimateur de l'Union européenne. Les dirigeants de l'UE, réunis en sommet à Bruxelles, ont décidé ce soir de prolonger de 6 mois leurs sanctions économiques contre Moscou, sanctions motivées par l'implication russe dans le conflit ukrainien. Ce sommet de Bruxelles a aussi évoqué la crise migratoire. Avec peut-être un tournant, le président du Conseil européen, Donald Tusk, remet en question les quotas de migrants imposés à chaque pays de l'UE. Une position qui fait polémique, Franck Mathevon.
Pour certains dirigeants européens et pour la Commission, Donald Tusk remet en cause le principe de solidarité en Europe. Le président du Conseil estime en effet que la politique des quotas de réfugiés est trop conflictuelle et donc inefficace. Cette approche divise en effet l'UE, schématiquement entre pays de l'Est opposés aux quotas et pays de l'Ouest et du Sud, notamment l'Italie et la Grèce, débordés par l'afflux de migrants. Emmanuel Macron, lui, refuse de trancher.
Pour les sujets qui relèvent, si je puis dire, du passé, il faut que, dans le cadre de ce qui a été décidé, une solidarité s'exprime sans pour autant tomber dans des blocages excessifs. Et en ce sens, je pense que chacun doit mettre un peu du sien pour trouver les bonnes convergences.
La France semble ouverte à de nouvelles propositions. Une idée circule, celle d'une solidarité qui reposerait sur des participations financières par pays pour faire face au phénomène migratoire. Cette discussion ne fait que commencer. Elle est au menu ce soir du dîner des chefs d'État et de gouvernement, mais rien ne sera décidé sans un gouvernement stable en Allemagne.
Franck Mathevon, depuis Bruxelles, a noté que la Pologne, qui refuse les quotas obligatoires de migrants, pourrait faire l'objet la semaine prochaine d'une procédure inédite de sanctions de la part de l'UE. Selon le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, la Commission européenne pourrait activer l'article 7 du traité de l'UE, un texte qui peut priver la Pologne de son droit de vote au sein de l'Union. Bruxelles reproche au pouvoir conservateur à Varsovie des réformes judiciaires qui menaceraient l'état de droit. C'est à Cahors et non à Paris que le gouvernement a présenté ce soir un plan pour lutter contre la désertification des centres-villes, surtout dans les petites et les moyennes agglomérations. Le Premier ministre Édouard Philippe qui a choisi la préfecture du Lot pour délocaliser l'action gouvernementale. Karine Bécard, vous êtes sur place. Alors quelles sont les principales mesures annoncées tout à l'heure ?
Écoutez, les moyens qui sont mis sur la table paraissent importants. 5 milliards d'euros sur 5 ans pour permettre donc aux communes qui en ont besoin de revitaliser leur centre-ville. Concrètement, comment on redynamise un centre-ville? Le gouvernement propose essentiellement deux axes. D'abord, rénover l'habitat, rendre la vie plus agréable, plus confortable en ville. Sur l'enveloppe globale, ce sont 1,5 milliard qui seraient consacrés à cela. Et puis, autre volet, Édouard Philippe veut réussir à ramener quelques grandes enseignes dans les centres-villes et dans le même temps empêcher la propagation des grandes surfaces dans les zones périphériques. Je m'explique, des commerces de plus de 1000 mètres carrés pourraient refaire leur apparition dans les cœurs de ville. Mais surtout, la grande innovation, c'est oser s'en prendre au supermarché et exiger une pause dans leur installation quand on estime qu'ils nuisent trop à la vitalité d'une commune. Voilà les objectifs affichés. La bataille pour y arriver ne fait que commencer.
Karine Bécard, merci. Invité de ce journal depuis Cahors, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Bonsoir.
Bonsoir.
Jacques Mézard, quelle est finalement la philosophie générale de ce plan de revitalisation des centres-villes ?
C'est un plan global qui a pour objet principal de faciliter les objectifs des collectivités locales, c'est-à-dire des maires et de leurs équipes en charge des villes moyennes. Pourquoi ? Parce que, en fait, depuis les années 70, il n'y a jamais eu de plan spécifique pour les villes moyennes. Et nous constatons tous aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre elles, pas toutes heureusement, connaissent des problèmes particuliers de vacances de logement, de vacances de commerce, avec des concitoyens qui sont partis vers les communes périphériques, vers les métropoles. Et nous avons besoin de villes moyennes fortes, parce que entre les métropoles, elles sont des éléments d'équilibre fondamentaux et indispensables. Elles ont des territoires ruraux autour d'elles et on a besoin de villes moyennes fortes avec des équipements structurants, avec bien sûr au niveau économique, au niveau culturel, au niveau sportif. Ce sont des éléments, des facteurs d'équilibre qui sont essentiels pour l'aménagement du territoire. Donc il faut les conforter.
Alors justement, concernant le maintien des commerces en centre-ville dans ces villes moyennes, il y a des mesures spécifiques que vous allez prendre ?
Nous allons faciliter administrativement l'installation des commerces en centre-ville. C'est-à-dire que pourquoi il y a eu construction depuis plusieurs décennies de centres commerciaux en périphérie, c'est parce qu'il était quasi impossible pour des raisons administratives, pour des raisons aussi de coûts, de construire des unités commerciales fortes en centre-ville. Donc nous allons faciliter l'installation commerciale en centre-ville au point de vue des règles administratives. Il y a aussi une réflexion sur la question de ce qu'on appelle les moratoires, c'est-à-dire de geler de nouvelles installations en périphérie. Mais ça, je crois que il faut être tout à fait clair là-dessus. Il faut que tout cela découle de la volonté des exécutifs locaux, parce que la situation est très diverse selon les villes.
Donc concrètement, vous ne demandez pas un moratoire général d'un an sur les créations et les extensions des zones commerciales en périphérie. C'était la demande de l'association Centre-Ville en Mouvement.
Oui, mais écoutez, un moratoire d'un an, ça, globalement, nationalement, ça ne signifierait pas grand-chose. Je crois que ce qui change, c'est que nous voulons faire confiance à l'intelligence territoriale, faciliter le travail des collectivités locales et pas leur imposer telle ou telle décision. Il y a aussi une mission de réflexion qui va être lancée sur l'extension de ce qu'on appelle le dispositif Malraux, c'est-à-dire une incitation fiscale pour les propriétaires de patrimoine anciens dans ces villes moyennes. C'est donc le regroupement d'un certain nombre de dispositifs, mais encore une fois, il s'agit d'aider les maires et les conseils municipaux de ces villes moyennes. Il ne s'agit pas de leur imposer un système.
Jacques Mézard, il y a tout de même un problème avec ces zones commerciales de périphérie qui ne sont souvent pas très compatibles avec la protection de l'environnement. Elles détruisent des terres agricoles. Alors quelle est la réponse de l'État par rapport à cette problématique ?
cette problématique aujourd'hui, je pense que la régulation commerciale elle-même, au-delà des mesures que nous pouvons être amenés à prendre, elle résulte aussi de l'évolution du commerce. Nous sommes maintenant dans un nouveau schéma qui est celui aussi du e-commerce. Je crois que ce qui est important, c'est que les centres-villes retrouvent un dynamisme, que les habitants des centres-villes n'aient plus tendance à le quitter pour aller vers la périphérie, que les gens aient envie de vivre dans ces centres-villes. Je crois que la problématique numéro un, c'est celle-là, d'aider à la restructuration, de donner envie à nos concitoyens d'y vivre, puisque sachant qu'à partir du moment où vous avez les équipements de santé, une bonne sécurité, la culture, le sport et puis de l'économie, je pense que c'est comme ça que l'on avancera.
Et là aussi, l'État s'engage à maintenir partout où c'est possible des services publics dans ces fameuses villes moyennes.
L'État, en dépit des difficultés budgétaires que l'on connaît et qui ne remontent pas à ces derniers mois, la maîtrise des dépenses publiques, c'est un objectif, mais il y a des priorités. Bien sûr, en ce qui me concerne comme ministre de la cohésion des territoires, j'entends que nous ayons le maintien de services publics dans ces villes moyennes, parce que, comme je l'ai dit, ce sont des pôles qui permettent d'irriguer les territoires ruraux qui sont autour. Il est absolument nécessaire d'y maintenir des services publics. Et nous envisageons aussi de permettre l'implantation de maisons de services au public dans le centre-ville de ces villes moyennes.
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir depuis Cahors. C'est officiel, ce que l'on appelle la neutralité du net a vécu. Le régulateur américain des communications a mis fin ce soir à ce principe qui obligeait les fournisseurs d'accès à traiter de la même manière tous les contenus passant dans leurs tuyaux. Désormais, ces fournisseurs pourront mettre en place un internet à plusieurs vitesses en fonction de ce que payera l'utilisateur. Alors parmi les géants de la toile, il y a Facebook et ses 2 milliards d'utilisateurs, 13 ans après son lancement. Mais aujourd'hui, le plus gros réseau social du monde est critiqué par certains de ses anciens dirigeants. Il y a par exemple cet ex-vice-président qui interdit à ses enfants d'utiliser, je cite, cette merde. Des propos féroces, Lise Verbeck.
Oui, il s'appelle Shamat Palihapitiya. Il était vice-président en charge de la croissance de Facebook entre 2007 et 2011. Il a participé de l'intérieur au réseau social et dit aujourd'hui se sentir coupable.
Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social sur lequel est fondée notre société. Vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes programmé. Maintenant, c'est à vous de décider à quel point vous êtes prêt à renoncer à votre indépendance intellectuelle. Nous organisons notre vie autour de cette fausse image de la perfection, parce que nous sommes récompensés par des signaux instantanés, cœurs, likes, pouces bleus. Et on leur donne de l'importance. Et on les confond avec la vérité. C'est juste mauvais.
Avant lui, d'autres anciens cadres de Facebook ont dénoncé, je cite, l'exploitation de la vulnérabilité de l'humain et sa psychologie par Facebook. Ils critiquent derrière cela l'économie de l'attention. Face à une offre abondante, donc économiquement dévalorisée, l'idée est de capter au maximum l'attention des consommateurs. L'objectif, par exemple, des réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que l'on ne décolle pas les yeux de son écran. L'utilisateur est une marchandise pour le réseau social, explique Benjamin Bayard, il est cofondateur de la Quadrature du Net.
Derrière les grands réseaux sociaux qui vivent de publicité, il y a les grands industriels qui veulent vous vendre. C'est pas seulement Facebook. Facebook, c'est la pointe qui est en train de vous transpercer et de vous faire du mal. Mais derrière, il y a des gens qui poussent. Tous les gens qui ont besoin d'acheter votre attention parce qu'ils veulent vous vendre, parce qu'ils veulent vous expliquer qu'une voiture, c'est plus écologique que de marcher à pied. Tous ces gens-là, ils ont besoin de vous le répéter beaucoup, le message faux, pour que vous finissiez par l'avaler.
Mais l'une des solutions serait, selon lui, de rendre Facebook payant pour quelques euros par mois pour arrêter ainsi d'être une marchandise publicitaire. Mais il reste lucide, ce n'est pas près d'arriver.
Lise Verbeck, merci. À retrouver sur franceculture.fr votre article sur les repentis de Facebook. Le temps demain, instable et plus frais en général. Il pleuvra sur les trois quarts du pays et les averses seront localement orageuses. Il neigera sur l'ensemble des massifs. Seules les régions méditerranéennes bénéficieront d'un ciel variable et plutôt sec. Température maximale 4 à 8 degrés dans l'Est, 6 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.